Je suis en compagnie de Frédéric Aïtouati. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'EHESS. C'est le troisième entretien que nous avons ensemble. Nous n'allons donc pas avoir de redites. J'invite les auditrices et les auditeurs à écouter sur l'émission du Fictionnaire les deux derniers entretiens qu'on a eus ensemble, les deux premiers, et notamment le deuxième qui explique bien déjà ce qu'est le théâtre latourien, ce que vous avez fait comme théâtre avec Bruno Latour, et qui explique aussi un petit peu SPIP. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, en invitant les auditeurs et les auditrices à écouter la deuxième interview que nous avons eue ensemble en 2021. Je vous interviewe à propos de ces deux livres qui sont sortis récemment, « Puissance de l'enquête, l'école des arts politiques » que vous signez avec Jean-Michel Frodon, Bruno Latour et Donato Ricci, c'est sorti aux éditions Les Liens qui Libèrent, et puis ce livre qui s'appelle « Trilogie terrestre » qui donne à lire trois conférences de Bruno Latour, Inside, Moving Earth et Viral, qui est sorti aux éditions B42. Ce sont donc de ces deux livres-là que nous parlons. Je voudrais que nous commencions par Puissance de l'enquête, et notamment ce titre-là. Donc ce livre est consacré à SPIP, l'école des arts politiques, et le titre Puissance de l'enquête est essentiel à notre affaire. C'est le mot enquête sur lequel j'ai envie de vous interroger.
Merci d'abord de revenir me voir et m'écouter et m'enregistrer. Je voulais commencer cet entretien ensemble, Dominique, en signalant que nous sommes en janvier 2023 et que les deux livres dont vous parlez sont parus, l'un en septembre 2022 et l'autre en octobre 2022, les deux avant le décès de Bruno Latour. Voilà, c'est important pour moi de rappeler ça, que c'est une rupture chronologique, historique fondamentale pour moi, pour beaucoup de gens, que le décès de Bruno le 9 octobre 2022. Et les deux livres dont nous allons parler aujourd'hui ensemble, et cela me réjouit, ont été faits avec Bruno. Il les a vus. Trilogie terrestre, vraiment, il était déjà à l'hôpital quand je lui ai apporté le livre tout début octobre. Et Puissance de l'enquête, nous avons fêté la sortie du livre, la célébration des 10 ans de SPIP, le 24 septembre à Chaillot. Donc ce sont deux livres très très importants pour moi parce qu'en fait, ils signent et signalent en quelque sorte, de deux manières différentes, plus de 10 ans de travail avec Bruno. D'une part, Puissance de l'enquête, c'est vraiment les 10 ans de SPIP, 12 ans en fait. Et la trilogie terrestre, c'est la trilogie, mais en fait, ça récapitule le travail de théâtre ensemble depuis 2009-2010. Donc c'est un peu deux chapitres qui se ferment, deux livres écrits. Voilà, donc je voulais commencer par signaler cela. Pour vous répondre sur le manifeste compositionniste, et vous me dites quand vous voulez récupérer le micro, parce que là, vous me l'avez donné, c'est dangereux. Le manifeste compositionniste ouvre ce livre « Puissance de l'enquête ». Vous voulez d'abord qu'on parle d'enquête. Le mot « enquête », le « Puissance de l'enquête », c'est un titre choisi par Bruno. On a beaucoup, beaucoup galéré sur le titre. Les quatre auteurs que nous sommes, enfin pas quatre co-directeurs de l'ouvrage, hein, puisqu'il a été écrit avec les étudiants de SPIP, avec plein d'autres gens. Et c'est Bruno, en plein milieu de l'été, qui a dit « mais c'est Puissance de l'enquête » et ça nous est apparu comme une évidence parce que, comme vous l'avez sous-entendu, le mot « enquête » est au cœur de toute la pédagogie de cette école des arts politiques fondée donc en 2009. C'est un terme de Dewey, John Dewey, qui met au cœur de la pédagogie et au fond de la recherche la notion de inquiry, qui est qu'on traduit par enquête, mais qui finalement il faut définir un petit peu plus précisément. L'enquête, c'est toute une méthodologie, une manière de partir du terrain, de l'expérimentation. C'est l'idée qu'on ne peut pas comprendre une question sans aller soi-même interroger, suivre les acteurs, les questions. Et bien sûr, on voit tout de suite le lien avec la philosophie latourienne et avec sa manière qu'il a eue de défendre et d'illustrer dans sa pratique sa manière à lui de penser, qui supposait d'aller sur le terrain et de suivre pas à pas, toujours cette idée très modeste, hein, de faire le lien, remonter le fil des questions, aller d'acteur en acteur, comprendre comment les entités humaines, non humaines, matérielles, techniques s'enchaînent pour créer les réseaux qui font notre monde. Donc cette enquête, elle est au cœur de la sociologie latourienne, bien sûr, et elle est à la base de la pédagogie de SPIP.
Le livre s'ouvre par le manifeste compositionniste de Bourgneux-Latour, et ce manifeste est essentiel pour comprendre pourquoi il a voulu créer SPIP au sein de Sciences Po. On peut y lire notamment une attaque fondamentale de art, on va dire art avec un grand A, l'art contemporain ou l'art appris dans les écoles des beaux-arts. Il y a une attaque pour dire faut arrêter avec l'expression. Il dit que nous importe l'expression de leur moi d'artiste, enfin le surmoi artistique tout seul, l'individu moderne par excellence que serait l'artiste. Et à la place, il propose enquête. Ça veut dire collectif, ça veut dire ensemble, ça veut dire on se sort aussi de uniquement l'expression humaine.
Oui, en fait, on pourrait résumer ce mouvement de deux manières. Dans le manifeste compositionniste, il y a cette idée très forte et belle que on ne peut faire face aux questions contemporaines, politiques, sociologiques, écologiques, qu'en associant, en alliant les savoirs entre eux, les savoirs au sens le plus large du terme, les savoirs savants, mais aussi les savoirs pratiques, mais aussi les savoir-faire, mais aussi les savoirs artistiques. Et cette idée-là, elle est très belle d'abord parce qu'elle remet l'art à la hauteur, je dirais, d'autres savoir-faire. Il n'y a pas de hiérarchie chez Latour, ce qui est fondamental entre une pratique philosophique, une pratique chorégraphique, une pratique photographique et une pratique scientifique. Il n'y a pas d'art ou de discipline qui serait au-dessus des autres. Et en même temps, et c'est le corollaire, l'artiste, qui parfois est un petit peu dévalorisé parce qu'il n'est pas aussi sérieux que le savant, l'artiste n'a pas non plus cette espèce de position hors sol, hors norme, un petit peu de Dora qu'il aurait dans la conception romantique. Donc vous voyez, pour moi, il y a ce double mouvement qui est fondamental. Par la déhiérarchisation, on remet l'art quelque part à côté des autres pratiques savantes, sachantes, heuristiques, qui nous permettent de faire enquête collectivement, et en même temps, on sort d'une vision romantique. Alors bien sûr, il y avait cette idée qui est... Alors le manifeste compositionniste, Bruno l'a prononcé en 2010 à Beaubourg, à la fin d'une série qu'on avait organisée ensemble, qui s'appelait « Le selon Bruno Latour », où on avait invité Donna Haraway, Isabelle Stengers, des artistes, Eugène Green, enfin c'était un truc complètement délirant quand j'y pense, et c'était génial de finir cette série, où Bernard Blisten nous avait invités, par ce manifeste. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que on commençait juste, puis on ne savait pas encore exactement quelle forme on allait lui donner. Et donc on ne savait pas encore à quel point ça allait être compositionniste. Mais après coup, je peux vous dire, 10 ans, 12 ans plus tard, que oui, le fait d'avoir recruté à chaque promo des artistes, des chercheurs, des gens de la société civile, des politiques, ça voulait dire qu'on allait se confronter à un type de personnes qui, quand ils sortent des Beaux-Arts, par exemple, viennent avec leur certaine idée de l'artiste et de l'art. Quand ils sortent de l'université, viennent avec une certaine idée de la recherche. Et donc, cette petite phrase que vous avez notée et qui me fait tant parler de Bruno, elle est essentielle parce qu'il n'a cessé de la répéter au début de chaque année en disant « Bon, on a 3 personnes qui sortent des Beaux-Arts cette année, il va falloir qu'on leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas là pour exprimer leur moi intérieur. » Et selon les années, moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est que c'est devenu de plus en plus facile. Au tout début de SPIP, ça paraissait très choquant. On avait des étudiants qui renâclaient un peu à cette espèce de mise au pas qui, en fait, pour moi, est une mise à niveau. C'est l'inverse d'une mise au pas, mais qui était parfois ressentie comme telle. Et de plus en plus, cette question-là ne se pose plus. C'est-à-dire que les gens arrivent avec, peut-être parce que SPIP est rentré dans les mœurs, je ne sais pas, Mais cette idée que on ne pose pas de hiérarchie, que l'artiste n'est pas en dehors de la société, au-dessus, mais il n'est pas non plus en dessous, qu'on a besoin de lui pour comprendre l'hôpital aujourd'hui. Voilà, cette idée-là est vraiment passée dans les mœurs. Et l'idée de Bruno, SPIP n'est pas une école d'art, en fait, ça voulait dire tout ça. Ça voulait dire, on n'est pas là pour demander aux gens d'exprimer leur moi intérieur.
Très rapidement aussi, SPIP a été polarisé par les enjeux de la crise climatique. Et donc, c'est aussi pour faire réponse à cette catastrophe climatique et écologique qui pesait de tout son poids déjà à l'époque sur la pensée de Bruno Latour et sur nous toutes et nous tous. Je vais citer Bruno Latour et je vais vous poser une question sur les compositionnistes. Il écrit « Une école des arts politiques aura donc pour première tâche de détecter partout les compositionnistes afin de se mettre à leur école et très pratiquement de les faire venir dans l'école. Qui sont ? Que font-ils les compositionnistes ?» Je pense que ce n'est pas une question évidente, mais elle fait sens pour savoir un peu ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que c'est que les compositionnistes ?
Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais pour moi, très clairement, ce sont les hybrides. Je n'ai pas souvent entendu Bruno parler des compositionnistes après ce manifeste. Je vous avoue, ce n'est pas un terme qu'on utilisait au quotidien. Voilà, on utilisait par contre beaucoup l'idée d'être SPIP ou pas SPIP. Ça voulait dire ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a recrutés qui étaient déjà des SPIP, au sens où c'était déjà des hybrides, déjà des chimères. Et là aussi, au cours du temps, ce qui était une exception il y a 10 ans devient un peu la règle. C'est-à-dire des jeunes gens qui sont, mais je prends votre exemple, à la fois DJ, qui font de l'art contemporain, qui font de la radio et qui ont un métier à côté. Voilà, mais ça, vous êtes un compositionniste, Dominique. Vous l'avez toujours été. Et en fait, c'est un petit peu comme la prose et Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous un petit peu des compositionnistes, si on regarde sérieusement. Seulement, la société ne nous demande pas de l'être et ce n'est pas ce qu'on nous demande. Enfin, les catégories socioprofessionnelles ne mettent pas ça en avant. Quelqu'un qui va vous dire avec un petit regard en coin, « Ah oui, je fais aussi la photographie à côté. » Bon, mais si ça se trouve, c'est aussi un grand photographe. Donc, l'idée aussi, dans le rapport aux amateurs et aux professionnels, toute cette question des pratiques artistiques qu'on met à côté, toute cette question-là, finalement, la vision de Bruno extrêmement ouverte nous a permis de les faire exploser et de sortir de ces a priori. Donc, oui, les compositionnistes ou les hybrides, on a eu tendance à les attirer à SPIP. Une danseuse anthropologue. Cette année, juste pour prendre un exemple, on a un étudiant qui est agronome et poète. Voilà. Ça pose plus aucun problème à personne, des animaux comme ça, des chimères comme ça. Voilà, j'ai l'impression d'être entourée de ces hybrides-là, mais j'admets que je baigne dans un bain peut-être un peu particulier.
À chaque fois, il y a une commande. C'est par une commande, et c'est pas tant dans ce livre, hein, Puissance de l'enquête, où toutes les commandes sont écrites à la fin. Et puis, la moitié de l'ouvrage, ce sont les élèves de SPIP qui parlent de comment ils ont traité la commande. Donc, on est vraiment dans... Il y a une commande. Comment se décident les commandes à SPIP ?
Là aussi, ça a changé au cours du temps. Au début, on allait les chercher un peu nous-mêmes, les commandes. Elles ont été issues d'associations amies, d'institutions qui nous connaissaient. On a beaucoup travaillé au début avec le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, parce que c'était voilà, des gens qu'on connaissait. On a eu des commandes liées aux gens qui nous accueillaient en résidence, le Théâtre des Amandiers. On a eu des commandes liées à nos connaissances. Grâce à Jean-Michel Frodon, on a eu pendant 4 ans une commande de l'APHP, des Hôpitaux Nord de Paris. Donc au début, on a fait de briques et de brocs, pour dire les choses, hein, comme toutes les jeunes institutions. Et puis maintenant, et ça c'est très intéressant, depuis quelques années, on vient nous chercher des gens, des institutions que je ne connaissais pas, que personne du comité pédagogique ne connaissait, qui ont entendu parler de SPIP et qui se disent « Tiens, ça nous intéresse ». Donc ça peut être le ministère de la Culture, il y a quelques années, qui vient nous chercher pour essayer de dénouer avec eux ce serpent de mer institutionnel qui était les ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, qui ont donné maintenant les ateliers Médicis. Voilà, on a plein d'exemples de commanditaires, l'Andra, sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires il y a quelques années, un grand festival de théâtre franco-belge qui s'appelle Next. Voilà, donc les gens ont un peu entendu parler de SPIP et on profite de cette petite renommée pour pouvoir choisir des commandes. Et ce qui est important dans la commande, c'est qu'elle soit bien formulée. Donc ce n'est pas simplement une commande au sens où vous devez faire quelque chose, vous êtes un bureau d'études, on vous donne de l'argent et vous produisez. Déjà, il y a très peu d'argent impliqué dans les commandes et donc ça nous laisse une liberté totale. On demande simplement aux commanditaires de faire en sorte que les étudiants n'aient rien à débourser s'ils doivent se déplacer, mais on n'est pas payé pour rendre quelque chose. Donc il y a une liberté et on tient beaucoup à ça. Et la commande, c'est une question, c'est un caillou dans la chaussure, comme Bruno aimait à le formuler. Ça ne peut pas être un brief, c'est tout l'inverse d'un brief. Et la réponse, c'est tout l'inverse d'une solution. Donc on passe vraiment par cette question à nouveau très duwienne de reformuler la question, reformuler la commande, faire enquête collectivement, construire la commande au fur et à mesure de l'enquête plutôt que de répondre à un format déjà donné. Et puis les restitutions de commandes sont bien souvent des récits d'enquête qui en eux-mêmes déjà sont très parlants et aussi très important pour nous, le médium final de la restitution était laissé au libre choix des étudiants. Ça pouvait être quelque chose d'ailleurs qu'ils maîtrisaient comme une vidéo, un film s'ils étaient cinéastes, mais ça pouvait être quelque chose aussi qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne connaissent pas parce que le SFIP continue et va très bien, donc il faut que je parle au présent. Voilà, donc les commandes, vous avez raison. Après, le mot enquête, c'est le second mot vraiment qui définit cette école particulière.
Une des grandes commandes, en tout cas celle qui est la plus célèbre, celle qui est restée à la postérité, c'est celle du théâtre des négociations en 2015, 6 mois avant la COP21. Nous en avons déjà parlé pendant le deuxième entretien, donc je renvoie les auditrices et les auditeurs au deuxième entretien que nous avons eu ensemble pour parler du théâtre des négociations. Et je voulais vous interroger sur deux termes qui reviennent dans votre texte, le théâtre comme lieu d'expérimentation politique, donc ce texte que vous avez écrit dans Puissance de l'enquête, et qui traite justement de ce théâtre de négociation en 2015. Et j'y retrouve deux termes, celui de réel et celui de fictionnel. Vous jouez sur ces deux termes afin d'essayer de d'expliquer ce qui s'est passé au théâtre des Amandiers. Vous écrivez « Il s'agissait d'une exploration des potentialités politiques du lien théâtral en faisant du théâtre un dispositif pour intégrer la fiction dans les processus de reconfiguration des forces politiques. » Un peu plus loin, vous écrivez « Aborder des questions politiques par le biais de la fiction, ce n'est donc pas leur interdire tout impact, c'est au contraire les rouvrir et permettre de les interroger autrement. » Comment avez-vous envisagé cette dualité réelle, fiction, et ce que permet le théâtre, et en particulier le théâtre des négociations?
Alors là, on revient sur un de nos vieux sujets de conversation, si j'ose dire, et vous voyez bien le lien, alors qu'il est apparemment ténu ou incertain, entre mes premiers travaux et ces expérimentations, qui n'ont a priori rien à voir, sauf que vous avez bien raison, le lien très fort pour moi, je dirais la base continue de tout ça depuis les Contes de la Lune, c'est une immense confiance dans les capacités transformatrices de la fiction, pour aller vite. Alors ça veut dire quoi, capacité transformatrice? Qu'est-ce que la fiction peut faire? Ou que peut la fiction? Je crois que c'est une des choses qui m'intéresse énormément. Sauf que cette question-là, en fait, je n'ai cessé de la poser de 1000 manières différentes. Avec la question de la fiction cosmologique dans les Contes de la Lune. Et puis, après avoir rencontré Bruno et avoir développé vraiment ma compagnie, j'ai continué à poser cette question-là par le théâtre. Et le théâtre m'a permis de compliquer la question de manière passionnante pour moi, puisqu'il ne s'agissait plus seulement, alors que c'est déjà compliqué, de fiction narrative, de récit lunaire. mais il s'agit de ces dispositifs complexes et merveilleux que j'adore, que sont les théâtres. Et en particulier, ce dispositif hyper complexe qui était le théâtre des négociations, parce que ce n'était pas simplement un plateau de théâtre, un spectacle, un lieu, mais tous les lieux d'un théâtre, tous ces espaces utilisés d'une manière absolument nouvelle. Alors si j'essaie de répondre un peu plus clairement à cette question, en quoi le théâtre des négociations est-il une fiction politique, puisque c'est ça mon hypothèse? Il est une fiction politique à bien des égards, mais l'un des aspects qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'était que c'est une fiction spatiale. C'est-à-dire que c'est intégré dans l'espace réel, puisqu'il s'agit bien d'un espace réel d'un théâtre, avec des murs, des coursives, des couloirs, un jardin, des ateliers, des êtres, des corps, des voix, des présences, voilà. Utiliser toute cette matérialité du théâtre pour modéliser un monde différent. Donc en fait, pour faire une espèce d'expérience de pensée, qui est une de mes définitions de la fiction, comme vous savez, depuis Les Contes de la Lune. Enfin, une des manières dont la fiction, pour moi, est agissante. Donc c'est quoi l'expérience de pensée, en l'occurrence, qu'on a mis en œuvre là? C'était de dire, jouons en avance, comme vous disiez, c'était 6 mois avant, une conférence internationale sur le climat, et changeons un peu ces règles, changeons ces acteurs, changeons sa scénographie, en partie, et voyons ce que ça donne. Donc en ce sens, le théâtre de négociation était vraiment une expérimentation politique qui se servait du lieu théâtral et de toutes ses potentialités reconfiguratrices pour explorer ces hypothèses-là, qui étaient l'hypothèse du Parlement des choses, en fait. Le Parlement des choses depuis Politics of Nature de Bruno, qui disait, voilà, que se passerait-il, et encore une fois, c'est als op, comme si, de l'expérience de pensée, que se passerait-il si on ouvrait la question politique aux autres entités que des humains. Voilà. Donc, et cette chose-là, et c'est pour ça que pour moi, c'était, pas que pour moi, mais pour beaucoup de gens, c'était tellement puissant comme expérience, c'est que brusquement, cette hypothèse, ce concept de Parlement des choses, était incarné dans toutes ses dimensions, je le disais, physique, vocale, mais aussi architecturale, scénographique, puisque cette espèce de petit monde qu'est une COP, Conference of the Parties, pouvait être rejoué, modélisé et donc reconfiguré dans l'espace du théâtre. Et vraiment, ça, c'est une des choses qui me fascine le plus. La puissance de configuration et donc de reconfiguration d'une fiction. Et le théâtre est devenu un laboratoire pour moi depuis 10 ans, finalement. C'est devenu un des endroits où je teste cette hypothèse d'origine, si j'ose dire, des Contes de la Lune, que la fiction permet de repenser le monde. Alors, je l'avais imaginé, je l'avais analysé plutôt dans Les Contes de la Lune avec cette question du cosmos qui est reconfiguré par la fiction, mais littéralement reconfiguré. C'est-à-dire que l'ordre des planètes n'est plus le même. Qu'on mette la Terre au centre ou le Soleil au centre, bien sûr, ce n'est plus le même cosmos. Donc, il y a bien une reconfiguration au sens très précis, presque de design, hein, du cosmos. Et cette reconfiguration-là, moi, je trouve passionnante de la mettre en œuvre, de la mettre à l'œuvre sur notre monde terrestre.
Oui, plus je vous interroge et plus je vous vois bien le lien fort qu'il y a entre Contes de la Lune en 2011, et la première interview ensemble, c'était pour ce livre-là, et ce que vous faites actuellement avec le théâtre. Parce que je ne sais pas si ça pourrait être correct de le formuler ainsi, mais à l'époque de Contes de la Lune, c'était pour voir comment étudier, comment les scientifiques de l'époque de début de la modernité, notamment les astronomes, avaient besoin de la fiction, en fait, pour faire comprendre, mais pas seulement pour faire comprendre, aussi pour pouvoir penser mieux, en fait, la nouvelle cosmologie qu'ils mettaient à l'ordre du jour. Ils avaient besoin de la fiction pour la mettre à l'ordre, parce que les instruments scientifiques n'étaient pas encore assez précis et pas encore assez partageables. Et ça, vous l'avez bien démontré dans Contes de la Lune. C'est de ça dont il s'agit. Comment les scientifiques ont eu besoin de la fiction, pas seulement pour montrer, pas seulement pour démontrer, mais pour faire, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que ce théâtre des négociations, ça pourrait être le politique maintenant? C'est le politique qui a besoin de la fiction, non pas pour illustrer, non pas pour dire, voyez, ce qu'on fait peut être la bonne voie, mais pour expérimenter, c'est-à-dire pour chercher, pour faire de l'expérimentation politique. Et ce théâtre des négociations est venu quand même 6 mois avant la COP 21, donc la COP de Paris, donc dites la COP sérieuse avec les États, là où votre pré-COP était une COP fictionnelle d'exploration. Mais j'y vois un lien fort entre les scientifiques du début de la modernité qui avaient besoin de la fiction et maintenant vous qui expérimentez le fait que c'est le politique qui a besoin de la fiction.
Vous avez absolument raison et vous faites le lien de façon très claire. Je ne l'aurais pas formulé peut-être aussi nettement, mais je souscris à ce parallèle totalement. Effectivement, aujourd'hui, c'est... Alors, ce n'est pas simplement le politique, mais en tout cas, au moment du théâtre des négociations, vous avez raison, on était dans un champ politique, clairement, d'expérimentation politique. Parce que cette reconfiguration, enfin cette idée qu'on atteint un petit peu les limites de certains outils. En fait, c'est ça qui m'avait frappé quand j'avais étudié le XVIIe siècle et l'astronomie, c'est à quel moment la fiction intervient. Elle intervient au moment où ça bloque, au moment où le télescope de Galilée s'arrête, la fiction prend le relais, en quelque sorte. Et il y a cet alliance merveilleuse entre un instrument optique, scientifique, et un instrument d'imagination, mais qui ne sont pas en opposition, qui sont en continuité, en quelque sorte. Et effectivement, la question politique aujourd'hui atteint sa limite, en quelque sorte. On voit bien que il y a un blocage. Enfin, et l'idée qu'il faut faire ce pas, en quelque sorte, hein, qui peut paraître fou, mais qui en fait n'est pas... On ne peut pas faire sans, effectivement. On le sent bien. En tout cas, c'est cette conviction-là qu'on partageait avec Bruno. Très clairement, cette confiance dans l'extrême sérieux de la fiction. Ce que vous disiez tout à l'heure, les astronomes utilisent la fiction pas simplement pour partager, mais pour penser. C'est ce que j'appelle la fiction heuristique. La fiction, elle est au cœur même du processus de réflexion, du processus de construction des connaissances, qu'elle ne vient pas se surajouter après coup. Et effectivement, ce qui est au cœur de tout nos expérimentations théâtrales, la trilogie, le théâtre des négociations, mais aussi l'école des arts politiques, c'est l'idée que les arts et la fiction doivent être au cœur de la pensée, et pas après, et pas en décorum, et pas en illustration, et pas en vulgarisation. C'est-à-dire que c'est un endroit vraiment de configuration, d'expérimentation, et là on le voit bien, le lien entre fiction et expérimentation, il est très étroit. C'est-à-dire qu'on expérimente en fictionnant, en quelque sorte.
Nous allons continuer en explorant ce domaine du théâtre avec la trilogie terrestre, qui est donc parue aux éditions B42, qui contient 3 performances, conférences. Il y a plusieurs termes afin de qualifier ce qui s'est passé là. On va dire en tout cas que la trilogie terrestre contient 3 textes de Bruno Latour, Inside, Moving Earth, Viral, et encore on pourrait dire 3 états de texte, parce qu'il y avait une belle part d'improvisation. C'est vous qui l'avez mis en scène, donc vous avez collaboré avec lui pour ces 3 pièces-là. Avant, il y avait eu Cosmocolos, qui est devenu après Gaia Global Circus. Donc ça, on en avait déjà parlé, je renvoie à la deuxième interview. Je voudrais vraiment parler de cette trilogie terrestre, et notamment de ce théâtre de la preuve. Parce que ce qui travaillait ces trois pièces, là on quitte un peu le théâtre d'une négociation, parce que c'est quand même un peu différent ce qu'il s'y joue. C'est vraiment essayer d'avoir une expérimentation, mais qui serait le théâtre de la preuve. C'est de cela dont j'aimerais que vous nous parliez.
Oui, c'est une bonne idée de repartir de ce terme-là, qui vient de Bruno et de ses premiers grands textes sur Pasteur. Son grand texte de 84 sur les microbes, il utilise ce terme qui, moi, m'avait beaucoup frappé, et il l'utilise de manière métaphorique, en quelque sorte. Hein, le théâtre de la preuve, c'est sa définition de l'expérimentation publique. Voilà. Et le laboratoire, en quelque sorte, est un théâtre de la preuve. Voilà. Donc là, il a beaucoup travaillé cette question-là bien avant de me rencontrer. Et puis, quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé de l'ordre de la littéralisation de la métaphore, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce fameux théâtre de la preuve, j'ai l'impression qu'il s'est dit, tiens, je connais une metteur en scène, ben on va les essayer, ces choses-là. Donc petit à petit, dans tous les projets que vous avez rappelés, qu'on a fait ensemble, on est allé vers ça. Et ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce travail avec Bruno, notamment de la trilogie, c'est qu'on était effectivement, on touchait du doigt cette crête entre théâtre de la preuve au sens scientifique, donc la vision de Bruno, et théâtre de la preuve au sens théâtral. On était vraiment sur cette articulation-là. Pourquoi ? Parce que je lui ai demandé, et il a accepté, de faire le geste de passer le pas du plateau de théâtre. Et en fait, c'est un geste qui bouscule tout, qui transforme tout. Puisque brusquement, ce qui était un théâtre de la preuve métaphorique classique, qui est par exemple la conférence, l'expérience publique, Bruno rejoue en pasteur, il adorait ça d'ailleurs, cette idée que voilà, on va rejouer l'expérience, on va rejouer le théâtre de la preuve. Et bien cette chose-là devenait autre chose, devenait du théâtre, vraiment, et du théâtre de la pensée. Et donc c'est cette espèce de va-et-vient entre théâtre de la preuve et théâtre de la pensée qui essaye de capter cette étrange forme qu'on a créée ensemble. Parce que les conférences performances, pour faire un tout petit point là-dessus, c'est à l'origine plutôt il y a une grande tradition d'art contemporain depuis les années 70 là-dessus. En général, c'est un artiste qui se saisit éventuellement d'un savoir et puis qui joue avec. Mais là, moi, c'était important de faire le geste inverse, de demander à un philosophe de porter un savoir en construction sur une scène de théâtre avec tous les outils du théâtre, mais sans forcément déminer le savoir ou le faire déraper, etc. L'enjeu était ailleurs. L'enjeu, c'était pour moi de partager avec le public ce fameux théâtre de la preuve, ou plutôt théâtre de la pensée, de Bruno en train de réfléchir avec moi quand on était en train de travailler. C'est-à-dire de partager finalement ce moment de l'élaboration de la pensée. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le théâtre de la preuve, ça serait la chose est fixée, la démonstration est faite, on va le rejouer pour démontrer. Ça, c'est l'expérience publique une fois qu'elle a été bien préparée. Mais nous, on se mettait à un endroit peut-être un petit peu plus dangereux, ce que j'ai appelé le théâtre de la pensée, qui était on est en situation d'incertitude collective à cause de Gaïa et du nouveau régime climatique. Et donc, on doit interroger, essayer, faire l'épreuve de nos hypothèses, essayer de faire des parallèles entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, essayer de trouver d'autres représentations de la Terre, etc. Donc toutes ces choses-là ne sont pas des savoirs constitués, finalisés, mais sont des savoirs en cours de constitution qui demandaient, à mon sens, et Bruno m'a suivi dans cette idée, qui demandaient d'être mis au travail, au plateau.
Et pour cela, vous avez fait tout un effort aussi pour décentrer l'humain. Vous expliquez bien, et ça c'est votre travail aussi un peu d'historienne de la fiction, que le théâtre antique ou le théâtre élisabéthain était encore ouvert sur du non-humain. Il n'y avait pas que l'humain en fait, et que c'était un théâtre d'extérieur, et quand le théâtre est passé à l'intérieur, il s'est renfermé sur l'humain, et que nous avons affaire actuellement qu'à du théâtre pour humains, par les humains, et que il n'est pas décentré, c'est l'humanocentrisme à son maximum peut-être, c'est le théâtre moderne en fait, et que vous faites un effort justement pour descendre, enfin pour ressortir ce théâtre, peut-être retrouver un théâtre antérieur, pré-moderne, dans lequel les entités terrestres, autres qu'humaines, on voit aussi au chapitre. Et alors, c'est pas tant dans ces trois pièces. Inside, écrivez-vous, propose de se tenir non pas sur le globe, mais dans la zone critique dont parlent les scientifiques. Moving Earth, c'est le passage de la Terre se meut, c'est-à-dire la transformation cosmologique à partir de 1610, au nouveau choc des conceptions actuelles qui est la Terre s'émeut. elle s'émeut, c'est très différent. Et puis Viral, qui est tourné sur Lynn Margulis, cette grande scientifique, cette grande biologiste, et sa grande innovation qui est de rendre leur puissance d'agir au corps vivant. Tout cela, ça participe de décentrer l'acteur humain. Et ça, c'est aussi tout votre travail, tout votre rapport au théâtre.
Oui, alors je ne suis pas du tout la seule dans ce parcours-là. Hein. C'est absolument. C'est vrai que c'est une de mes hypothèses depuis longtemps, parce que je m'intéresse au théâtre aussi comme cosmogramme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le théâtre nous dit de notre cosmologie moderne. Alors là aussi, il n'est pas le seul à le faire. On a plein d'objets, d'artefacts, de représentations qui sont des cosmogrammes. Mais le théâtre, pour moi, est l'un des cosmogrammes les plus puissants, puisqu'il organise les places, les positions, les regards, l'articulation entre l'humain et le non-humain, entre l'inerte et le vivant. Et donc, les formes des théâtres et les types de théâtres, vous avez parlé du théâtre élisabétain, du théâtre antique, du théâtre moderne, on pourrait parler des théâtres contemporains. Mon hypothèse, ça serait de dire que ces formes-là disent quelque chose, pas simplement d'une mode, d'une littérature, de grands thèmes, d'une anthropologie, etc., non, mais d'une cosmologie. C'est-à-dire, ces formes-là disent quelque chose d'une manière de distribuer les forces du monde. Donc si on suit cette hypothèse, eh bien là, le théâtre devient un outil génial pour, non pas tout expliquer, mais en tout cas, essayer de voir un petit peu les grands moments de bascule, effectivement, qui se sont joués dans le choix de représenter ou pas les forces cosmiques. Et puis comment ? Est-ce que c'est en les incarnant par des allégories, en les mettant sur scène, sous forme de machines baroques, d'en faire des rideaux peints. Voilà, donc toutes ces manières qu'on a eues d'arranger les regards et les articulations entre humains, non humains, comme on dit maintenant, sont lisibles dans l'histoire, dans l'histoire du théâtre. Mais je me suis perdue en chemin.
C'était ce nouveau théâtre auquel vous participez, où il y a pas que des humains, qui est non exclusif en humanité.
C'est ça. Oui, donc j'étais pas tellement perdue puisque je parlais de ça. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se dire si on partage la scène, et là aussi je métaphorise, mais si on partage la scène du monde, le théâtre mundi. Et là, encore une fois, cette métaphore très ancienne, hein, elle me passionne parce qu'elle est extrêmement agissante pour nous aujourd'hui. Donc ce théâtre du monde, on l'a représenté de mille manières. On a transformé nos manières de le jouer, de le rejouer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit le partager. Voilà. Et cette question de partager la scène, elle m'intéresse énormément. Et ce qui est fascinant pour moi au théâtre, c'est que ça me permet... Cette question est énorme, mais le fait de le faire dans un lieu ou de l'aborder au moyen d'un lieu à taille humaine, à échelle humaine, comme cette petite pièce où nous sommes, ou un plateau de théâtre, ça permet de se poser des questions très compliquées de manière très simple. En tout cas, ça permet de tester. Toujours cette obsession de l'expérimentation chez moi, j'ai l'impression, du lien entre expérimentation et fiction. On y revient. Testons par des dispositifs scénographiques, mais les articulations, c'est ça le plus intéressant, entre humain, décor, public, où est-ce qu'on met le public, d'où on regarde, comment on regarde, qui parle, quelle est la distribution des forces, comment on convoque le non-humain sur scène. Voilà, c'est des questions qui ne sont pas du tout évidentes, mais finalement que je ne cesse de reposer à travers mes différents spectacles.
J'aimerais que nous concluions ce troisième entretien ensemble avec les auditions du Parlement de Loire qui se sont tenues en 2019, notamment à Tours. Je fais donc référence à ce livre coécrit par Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire. Ce livre est composé d'auditions, d'experts, de juristes, de philosophes. Et la première audition, bien entendu, c'était avec Bruno Latour. Et vous, je dis bien entendu, puisque le Parlement de Loire, on pourrait dire, c'est une lointaine idée de Bruno Latour avec son Parlement des choses dans la conclusion de « Nous n'avons jamais été modernes » en 1991, et c'est quelque chose qui pourrait en découler, en fait, conceptuellement. En tout cas, dans la tête de Camille de Toledo, c'est de cela dont il s'agit, de ce lien fort avec le Parlement des choses de Bruno Latour. Donc, cette première audition avec Bruno Latour, et on peut se souvenir de cette phrase de Bruno Latour qui fait encore trembler, qui disait « Montrez-moi le peuple de Loire ». C'est-à-dire qu'il voulait « Mais il est où le peuple de Loire ?» Et c'était bien toute la problématique qu'il y a en France ou en Occident. Il n'y a pas les Maoris comme en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas un peuple qui permettrait d'incarner des figures non humaines, qui permettrait d'incarner le vivant et en tout cas le bassin versant Loire. Comment est-ce que vous avez vécu cette tentative de Parlement de Loire, d'un Parlement cosmopolitique qui, me semble-t-il, prend la suite du théâtre des négociations. C'est-à-dire que j'y vois première version, grand défrichage, tome 1, on va dire, ça serait le théâtre des négociations en 2015 aux Amandiers. Deuxième version, chapitre 2, ça serait ce Parlement de Loire.
Oui, vous avez tout à fait raison et je crois que c'était totalement explicite et assumé de la part de Camille. C'est-à-dire que quand il est venu nous trouver avec Bruno, c'était quelques années après le théâtre des négociations. Il a suivi cette chose-là avec grand intérêt. Il nous en a beaucoup parlé. Moi, à l'époque, je connaissais déjà son travail. Et je trouvais ça très beau, cette idée de poursuivre et d'approfondir. Parce que finalement, le théâtre des négociations, c'était fou, mais c'était un peu voilà, dans un format très particulier, la COP, format dont plus grand monde, enfin, auquel on ne croit plus beaucoup, avouons-le, 7 ans plus tard. Et puis j'ai beaucoup aimé l'idée que, à partir d'un même concept, Parlement des choses, finalement, Camille propose de creuser. Pour moi, j'ai vraiment vu ce projet du Parlement de Loire comme une manière de prendre au sérieux les propositions conceptuelles, encore une fois, les fictions. Et là, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun avec Camille de Toledo, d'où d'ailleurs une prochaine pièce qu'on est en train d'écrire dont je vous parlerai dans quelques années. Puisque les collaborations se poursuivent et se prolongent et prennent de nouvelles formes. Mais oui, il y a cette idée très forte qu'on peut, avec un appareillage vraiment propre à Camille de Toledo, qui était juridique, ce qui vient de là, et fictionnel, et littéraire, et aussi une enquête. Alors là aussi, la grande différence entre le théâtre des négociations, qui était voilà, un grand projet fondé sur le protocole des COP et donc avec des position papers, mais pas vraiment d'enquête finalement. Les position papers, c'est très technique. Là, ce que Camille a fait, c'était vraiment d'aller chercher, alors peut-être pas le peuple de Loire, mais en tout cas quelques-uns de ses représentants, c'est-à-dire des pêcheurs dans ces grands bateaux à fond plat sur lesquels il nous a invités, je me souviens, de cet accueil merveilleux sous la pluie avec un café brûlant, il faisait froid, on était sur le bateau, tout était mouillé en dessus, au dessous, mais on était avec Camille et ses gens passionnés sur ce bateau sublime au milieu du fleuve. Enfin voilà, donc cette capacité qu'il a eue à réunir quand même sur le long terme des scientifiques, des archéologues, des praticiens de la Loire, si j'ose dire, des gens qui la vivent. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, c'était une manière de faire un coup de sonde et puis de tenter de donner voix. Et c'est très beau ces relais qui sont pris aujourd'hui par des gens comme Camille qui poursuivent comme ça les grandes intuitions de Bruno et vont se coltiner à la réalité et aux difficultés. Et j'en ai beaucoup parlé à Camille, ça bouclerait peut-être pas mal notre entretien. Je lui avais dit, mais c'est quoi ton affaire, ce Parlement de Loire? Mais c'est quoi le dispositif? J'arrivais pas à savoir au début si c'était un vrai truc, parce que ça y ressemblait, avait vu tous les logos qu'il avait réunis, ou si c'était une pure fiction. Et il m'a dit, c'est une pure fiction qui aimerait bien devenir un peu réelle.
Merci beaucoup, Frédéric Aïtouati. Merci.